Agro j'écoute, ça commence maintenant.
L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène, on va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts.
Agro j'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture.
Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides.
Faut réapprendre, faut oublier pour apprendre autre chose, parce qu'il y a des fois, voilà, on se trompe.
Cide, ça veut dire que ça tue.
Agro j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
Tous les produits en cide devraient être interdits.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan.
Le label Max Avelar, Fairtrade, Fair for Life, Bioéquitable France, Bioéthique, Paysans d'ici, le commerce équitable Nord-Sud, Nord-Nord, les AMAP, les circuits courts. Bon, on est d'accord pour dire que c'est un beau bordel, tout le monde s'y perd. Vous en avez déjà entendu parler, vous le voyez étiqueté sur votre café du matin ou sur vos jus de fruits, tous ces mots font référence au commerce équitable et aux productions locales. Mais savez-vous ce qu'il y a derrière ces mots? Nous allons vous aider à y voir plus clair et à faire le tri. Bienvenue dans Agro j'écoute sur Campus FM. Nous sommes trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan, passionnés d'agroécologie et de développement durable. Je me présente, je suis Mathilde Rudloff, la présentatrice de cette émission, et avec moi en visio, Mathilde Arrouzé et Jordi Fils. Bonjour.
Bonjour.
Ensemble, nous allons aborder la thématique du commerce équitable, et plus particulièrement du commerce équitable Nord-Nord, qui est peu connu. Dans la première partie de cette émission, nous vous expliquerons les principes du commerce équitable, puis après une courte pause musicale, nous vous retrouverons pour débattre autour de ce thème. Alors pour commencer, nous avons interviewé sur les réseaux sociaux, vous, consommateurs et chers auditeurs, pour savoir ce qu'était pour vous le commerce équitable. Michel, du 31, nous dit « C'est cher, mais franchement, qu'est-ce que ça vaut ? Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. C'est que du marketing tout ça, pour se faire plus d'argent sur le dos des consommateurs. » Cindy, du 78, nous écrit « Le commerce équitable, pour moi, c'est surtout assurer une bonne rémunération aux agriculteurs, et donc pour ça, j'achète local. Par exemple, je suis adhérente à une AMAP. » Tony, du 13, nous envoie « Pour moi, quand on dit produit équitable, je pense au café du Pérou et au chocolat de Madagascar, miam !» Après la lecture de ces commentaires, on voit bien qu'à la question, les réponses sont très différentes et surtout, les consommateurs n'ont pas une définition précise du commerce équitable. Mathilde, Jordi, est-ce que l'un d'entre vous connaît les critères que le commerce équitable doit respecter pour être labellisé ?
Moi, oui. Alors d'abord, pour comprendre le commerce équitable, il faut se référer à la loi relative à l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014. Donc plus simplement, on peut l'appeler la loi Hamon. Et cette loi Hamon, elle va définir 6 points importants que le commerce équitable va devoir respecter. Donc tout d'abord, le commerce équitable se crée par le rassemblement de producteurs à un collectif. Le deuxième aspect va être le fait de devoir vendre des produits équitables sur plusieurs années et donc d'avoir un engagement commercial avec une marque pour au moins 3 ans. Le troisième aspect sera le prix rémunérateur de l'agriculteur avec un prix fixé sur les coûts de production. Le quatrième critère, c'est qu'un montant du prix est destiné au financement de projets territoriaux. Le cinquième aspect, c'est donc la traçabilité qui doit être garantie tout le long de la filière. Et enfin, un dernier point, des actions de sensibilisation et d'éducation des consommateurs doivent être mises en place concernant la durabilité.
D'accord. Donc, si je comprends bien, si ces 6 critères ne sont pas respectés, les produits ne sont pas labellisés issus du commerce équitable. Alors, en résumé, on peut dire que le commerce équitable vient de cette volonté de créer des accords commerciaux entre les pays du Nord et les pays du Sud pour réduire les inégalités sociales et garantir aux agriculteurs des prix stables et rémunérateurs. On peut illustrer ça très simplement. La vente d'un paquet de café classique verse 10% du prix au producteur et le reste est versé aux autres acteurs de la filière. Avec un café dit équitable, la rémunération du producteur est doublée. On verra par la suite que c'est également possible entre les pays du Nord. D'ailleurs, vous savez quand est-ce que cette démarche est apparue, parce que ça doit dater de bien avant 2014.
Oui, en effet. En fait, le commerce équitable s'est développé en Europe dans les années d'après-guerre, donc sous l'impulsion d'organisations caritatives et humanitaires. Et donc, pendant les années 60-70, des organisations de producteurs se sont formées au Sud avec des partenaires qui étaient basés au Nord. Et donc, l'objectif, c'était d'instaurer de l'équité dans les échanges commerciaux. Et donc, ce modèle, il s'est construit en opposition au schéma traditionnel du commerce mondial qui donnait peu de pouvoir aux petits producteurs.
C'est ça. Et pour illustrer ce que tu viens de dire, en 1964, les producteurs de café, ils ont subi une très forte chute du cours du café. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de lancer l'appel « Trade Not Aid ». Donc, en français, ça donne « du commerce, pas de l'aide ». Et donc, cet appel, il va amener les associations de producteurs à développer des initiatives commerciales qui se traduiront aujourd'hui par le commerce équitable qu'on connaît.
Oui, tout à fait. Et après, un peu plus tard, donc dans les années 80, les consommateurs ils sont devenus donc, de plus en plus sensibles aux problèmes environnementaux et aux conditions de production donc, dans les pays du Sud. Et ça a marqué un tournant pour le commerce équitable, puisque après, en 1988, s'est créé aux Pays-Bas donc, le premier logo Max Havelaar. Et le succès de ce label s'est ensuite étendu donc, au-delà des frontières néerlandaises. Et en France, on a assisté donc, à la même dynamique. Et en 1997, est né le label Commerce Équitable France. Et à partir de ce moment-là, on retrouve dans les supermarchés français, par exemple, du café du Pérou, du chocolat de Madagascar, labellisé équitable.
Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment pas super récent. Mais du coup, comment est-ce que le commerce équitable a évolué en France depuis?
Alors aujourd'hui, le marché est en pleine croissance et il ne cesse de se développer. Donc par exemple, selon un article des Échos qui est paru en 2019 et titré donc « Le commerce équitable surfe sur la vague du mieux manger », donc les ventes de produits labellisés « commerce équitable » ont bondi de 22% en 2018. Et cette même année, d'après Commerce Équitable France, 84% des produits équitables, donc Nord-Sud, étaient également labellisés agriculture biologique. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient produits sans molécules chimiques de synthèse, comme par exemple les pesticides. Et pour ce qui est des filières équitables made in France, donc elles se développent elles aussi. Elles représentent actuellement un tiers de la valeur du marché, contre deux tiers pour les filières internationales. Donc, il existe un commerce équitable Nord-Sud, mais aussi un commerce équitable Nord-Nord, on l'a dit. Il est plus récent et moins connu des consommateurs. Le concept reste le même, c'est-à-dire que le commerce équitable entre les pays du Nord doit respecter les mêmes critères que le commerce équitable Nord-Sud. Donc, souvenez-vous des 6 critères de la loi Hamon. Et donc, la mise en place des principes du commerce équitable Nord-Nord, il se fait au bénéfice du développement territorial des agriculteurs des pays du Nord et non pas au bénéfice des agriculteurs donc, des pays du Sud. La différence donc, entre ces deux modèles réside donc, dans le type de produit qui est proposé, puisqu'il s'agit de produits des pays du Nord, souvent locaux, par exemple d'une région. Et par exemple, on va retrouver comme produit les lentilles de Charente, les pruneaux d'Agen ou la confiture d'abricots du Roussillon. Et ces produits, on va les retrouver donc dans des réseaux de distribution qui sont alternatifs aux grandes surfaces.
D'accord, ouais, c'est plus clair, je comprends mieux. Donc, pour le commerce équitable Nord-Nord, j'imagine qu'il ferait opposition aux méthodes agricoles intensives et à la surproduction de l'après-guerre dans les pays du Nord. Et les agriculteurs, on le sait, ils ont été contraints de réduire leurs marges afin de s'adapter justement au prix du marché. Et cela a eu pour conséquence une mauvaise rémunération des producteurs, mais aussi une dégradation de leur qualité de vie. En fait, ça me fait un peu penser à la crise du lait de 2009. Vous vous en souvenez?
Ouais, ouais, moi je m'en souviens bien. C'était une période qui était assez terrible pour les éleveurs. On pouvait voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la télé des images de l'agriculteur au bord de la faillite qui déversait des millions et des millions de litres dans les prairies parce qu'il voulait manifester pour une rémunération plus juste et plus équitable. Et je pense que c'est aujourd'hui un exemple flagrant des limites de notre système, puisque le prix du lait, il était tellement bas à cette époque que les éleveurs vendaient à perte et ils n'avaient pas assez de revenus pour subvenir à leurs besoins et assurer la durabilité de leur activité.
Oui, et maintenant on voit la société a évolué et aujourd'hui les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux problématiques des agriculteurs et aux conditions de production de leur alimentation. Julie Stoll, la déléguée générale de Commerce Équitable France, a reconnu que 2018 avait été une année charnière pour le commerce équitable et elle explique lors d'une interview réalisée pour Les Échos en 2009, je cite, le changement du comportement des consommateurs nous porte, les Français achètent moins mais mieux. Jordi, je crois que c'est toi qui avais des infos sur ce sujet-là.
Ouais. Eh bien, l'agriculture intensive et conventionnelle, elle a entraîné une distanciation entre les producteurs et les consommateurs. Aujourd'hui, c'est la tendance qui est à l'inverse. On voit un engouement du consommateur pour le bio, le local, les produits plus sains. Et les Français sont de plus en plus sensibilisés au bien manger et au mieux consommer. Certains sont même attachés aux produits du terroir et aux conditions de vie et de rémunération des agriculteurs. Et pour vous donner quelques chiffres en titre d'exemple, il y a eu un sondage d'Opinionway en 2018 pour le label de commerce équitable Max Avelard qui a montré que 75% des Français interviewés prennent en compte lors de leur achat l'endroit où le produit a été fabriqué. En plus de ça, 62% d'entre eux portent une attention particulière aux conditions de production et à l'environnement, et 36% de ces consommateurs valorisent la bonne rémunération des producteurs.
Oui, donc en fait, les Français, ils sont demandeurs de produits équitables et locaux, mais les circuits courts, les AMAP et le commerce équitable, ils répondent aux mêmes enjeux. Du coup, pourquoi les produits des circuits courts, ils ne sont pas labellisés équitables?
Oh, c'est une très bonne question, plutôt complexe. Bon, on a bien compris ce qu'était le commerce équitable. Maintenant, on va vous parler des circuits courts et des initiatives locales qui se développent donc toujours dans les pays du Nord. Nous débattrons du fait qu'ils relèvent ou non du commerce équitable, car vous le verrez, la frontière entre le commerce équitable Nord-Nord et les circuits courts est très subtile. Mais avant cela, nous vous proposons une courte pause musicale avec le groupe Deluxe. N'hésitez pas à réagir et à participer avec nous au débat sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques minutes, chers auditeurs, pour la suite de notre émission Agro J'écoute sur Campus FM. A tout de suite.
I'm the queen of the jungle, but don't live in a bungle. With my claws, my elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east that wants to make me his feast. Cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting from to dot to dawn. Eating cheers in everybody's lawn. Spinning fear when I sing a lazy yarn. I'm roaming on and on and on. I'm hunting from to dot to dawn. Eating cheers in everybody's lawn. Spinning fear when I sing a lazy yarn. Just in case you miss good grace of balls in place, yeah. It's the mighty medulla, you're the great obligada. That rains on my face can't be contained. Don't try to tame on top of the chain, yeah. I'm roaming on and on and on. I'm hunting from to dot to dawn. Moving cheers in everybody's lap. Spinning fear when I sing a lazy yarn. I'm roaming on and on and on. I'm hunting from to dot to dawn. Moving cheers in everybody's lap. Spinning fear when I sing a lazy yarn. Tuna, dolphins, belugas, blame
Vous êtes toujours dans l'émission Agro J'écoute sur Campus FM. On est heureux de vous retrouver pour la suite de notre émission sur le commerce équitable. Dans la première partie, donc, nous avons discuté des concepts phares du commerce équitable et de la distinction Nord-Sud et Nord-Nord. Maintenant, c'est l'heure du débat. Quelle est la particularité du commerce équitable Nord-Nord ? Peut-on considérer les circuits courts et les initiatives locales comme des démarches équitables ? Jordi et Mathilde vont tenter de répondre à ces questions. Pour commencer, Mathilde, quel est ton point de vue ?
Alors, juste avant de démarrer, j'aimerais juste rappeler à nos auditeurs ce qu'on entend exactement par commerce équitable Nord-Nord. Donc, on l'a abordé dans la première partie, mais je pense que ce serait bien de rappeler un peu ce qui s'est dit. Donc, le commerce équitable Nord-Nord, il s'est inspiré des principes du commerce équitable Nord-Sud pour les adapter à la situation socio-économique des pays du Nord. Il a donc une charte qui lui est propre. Elle a été créée sous l'impulsion du commerce équitable France et elle comporte 14 principes répartis en trois grandes catégories qui sont donc d'abord l'engagement pour une relation commerciale équitable et responsable, l'engagement pour un changement des pratiques commerciales et enfin l'engagement pour une agriculture citoyenne et durable. Donc la durabilité de ce commerce se traduit par exemple par le développement d'une filière agricole qui va être éco-responsable, donc avec une gestion raisonnée des ressources naturelles et énergétiques locales, et aussi par la promotion d'une agriculture durable qui, dans les faits, est très souvent biologique. Par exemple, d'après le collectif Commerce Équitable France, près de la moitié des produits équitables français sont aujourd'hui labellisés en agriculture biologique. Et donc, le commerce équitable Nord-Nord, il vise, comme le commerce équitable Nord-Sud, une juste rémunération des producteurs, une valorisation des produits du terroir, la promotion d'une agriculture durable, la transparence et la traçabilité des produits. Donc, la différence entre le commerce équitable Nord-Sud et le commerce équitable Nord-Nord réside donc dans la localisation géographique des acteurs, puisque dans le cas du Nord-Nord, les échanges commerciaux, ils se font exclusivement entre pays du Nord ou alors au sein d'un même pays, comme par exemple au sein de la France. Et donc, souvent dans ce cas-là, les échanges commerciaux, ils se mettent en place à l'échelle d'un terroir ou d'une région. Et donc, les produits sont différents, puisque les produits Nord-Nord, ils vont concerner plutôt les jus de fruits, les pâtes, le riz, la confiture, et non pas le café, le cacao ou le sucre.
C'est tout à fait ça, Mathilde. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est qu'il existe des labels qui sont spécifiques au commerce équitable Nord-Nord et donc qui vont être plus récents que ceux du Nord-Sud. Si je peux donner quelques exemples, il y a le label Agritique France et cette année, un nouveau label est sorti, c'est le label Bio-Équitable en France qui est né d'un partenariat entre Biocoop et la charte Paysans d'ici d'Éthicable. Et donc, comme tu l'as très justement dit tout à l'heure, le commerce équitable Nord-Nord, il va mettre en avant des produits locaux, du terroir, et c'est pourquoi on peut aussi l'appeler commerce équitable local ou de proximité.
Oui, et c'est d'ailleurs de là que vient la confusion donc, entre le commerce équitable Nord-Nord et les circuits courts. Donc, on appelle circuits courts les circuits de distribution alternatifs aux grandes surfaces, où le nombre d'intermédiaires donc, entre les agriculteurs d'une part et les consommateurs est limité à 1,
Donc, c'est-à-dire que soit il n'y a pas d'intermédiaire du tout, ou alors il y en a au maximum un. Et donc, il s'agit par exemple de la vente directe à la ferme, de la vente sur les marchés, la vente par Internet, ou alors les marchés de producteurs et les AMAP.
Alors oui, je pense qu'il faudrait expliquer quand même ce que sont les AMAP pour les auditeurs. Donc, une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il s'agit en fait d'une relation commerciale qui est établie entre un groupe de consommateurs et des producteurs locaux, et ils définissent ensemble les produits qui seront vendus, les volumes, et surtout, ils déterminent ensemble le prix de vente des produits. Donc, ils doivent être suffisants pour que les agriculteurs couvrent les frais de production, mais aussi pas trop élevés pour le consommateur non plus.
Du coup, on peut dire que les circuits courts répondent aux exigences du commerce équitable. On voit bien que les principes économiques, environnementaux et sociaux sont bien défendus. Et en plus, on va avoir une relation plus forte entre le producteur et le consommateur. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention, puisque les produits issus du circuit court, ils ne sont pas forcément équitables au sens strict du terme, puisqu'ils n'ont pas de label et ils ne vont pas répondre à tous les critères de la charte qu'on a pu définir tout à l'heure. Bien que parfois, on peut quand même avoir des valeurs communes entre ces deux types de commerce. Par exemple, les produits issus des circuits courts, ils ne vont pas forcément octroyer un montant pour le financement de projets territoriaux.
Oui, et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un label équitable pour les produits issus des circuits courts, ou bien peut-être étendre les critères des labels équitables déjà existants pour les inclure dedans? Parce que finalement, ça leur donnerait plus de visibilité et ça ne serait que justice au regard des valeurs et de l'idéologie agricole qu'ils défendent.
Bah, moi, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, le local et l'équitable, c'est vraiment deux commerces distincts, selon moi. Les consommateurs qui achètent local et ceux qui achètent équitable, ils le font pas pour les mêmes raisons. Et de même, les agriculteurs qui sont investis donc, dans ces démarches, ils ont des buts différents.
Mais je comprends pas bien ce que tu veux dire, parce qu'on est d'accord qu'ils partagent bien des valeurs communes, donc pourquoi ne pas les associer ?
Eh bien, d'abord, donc, les agriculteurs qui sont engagés dans les circuits courts, ils ne bénéficient pas de labels, bon, sauf s'ils sont bio, mais souvent, ils ne veulent pas avoir à suivre d'autres cahiers des charges, parce que c'est contraignant pour les agriculteurs. Et puis, leurs produits sont déjà valorisés et reconnus par la satisfaction des consommateurs, qui échangent avec eux au moment de l'achat. Donc, certains agriculteurs ne voient tout simplement pas l'intérêt d'obtenir un label supplémentaire, parce qu'ils n'ont pas besoin forcément de cette reconnaissance en plus.
Oui, mais ça, c'est pour les agriculteurs qui font de la vente directe. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de produits qui sont vendus en magasin de producteurs et plus connus en grande surface, sous des marques qui, elles, sont équitables dans leur démarche, mais qui ne possèdent pas de label. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la crise du lait. Bien, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la fameuse Brique Bleue, c'est qui le patron ? Eh bien, cette marque, elle souhaite aider les producteurs de lait et pour cela, elle va définir un prix de rémunération fixe qui va satisfaire les deux parties, donc le producteur et le consommateur. Et peut-être que pour eux, finalement, il pourrait être intéressant d'avoir un label équitable.
Oui, mais le consommateur, il a tendance à se perdre, on l'a vu, parmi tous ces labels, toutes ces marques. Donc, il est quand même important de rappeler que les produits locaux et les produits bio sont proches des produits équitables, mais ils ne respectent pas forcément tous les critères pour être labellisés. C'est ce que tu disais, Jordi. Et comme on l'a vu, l'obtention d'un label n'est pas une obligation. Du moment que le consommateur reconnaît la qualité du produit et qu'il connaît l'origine et son mode de fabrication.
Ben oui, oui, et on l'a souligné tout à l'heure, la proximité qui existe entre les agriculteurs et les consommateurs qui achètent directement leurs produits aux producteurs, c'est un élément très important. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes d'isolement des agriculteurs qui ont perdu le contact avec les consommateurs. Et donc, les circuits courts, justement, ils permettent cette reconnexion et la réinsertion donc, des agriculteurs dans la société. Et en plus, ça permet aussi aux consommateurs de se reconnecter avec les produits qu'ils achètent et d'échanger avec le monde agricole. Et cette valeur sociale, on ne la retrouve pas du tout dans le commerce équitable, puisque les produits ils passent par de nombreux intermédiaires avant d'arriver jusqu'aux consommateurs, ce qui a aussi comme conséquence plus de transport comparé aux produits issus des circuits courts.
C'est vrai que tu as raison sur ces points-là, mais bon, pour moi, ces deux commerces, ils ont quand même en finalité le même objectif. C'est d'améliorer la situation économique des agriculteurs, tout d'abord, de lutter contre la précarité et plus largement, on peut dire, s'opposer à la mondialisation et aux grandes firmes internationales. Moi, je pense quand même personnellement que la situation économique des agriculteurs en France, elle est aussi grave que celle des petits producteurs dans les pays du Sud.
Bah, pour moi, c'est quand même pas comparable parce que le contexte économique, politique et social des pays du Nord et des pays du Sud est complètement différent.
Oui, d'accord, le contexte est différent, mais au final, le résultat, il est le même. Ils sont tous soumis au cours mondialisé du marché. Certains agriculteurs ont des prix de vente qui n'est pas suffisant et qui peut entraîner une précarité économique. Et pour moi, les agriculteurs des pays du Sud, qui vivent dans la pauvreté, eh bien, ils sont dans une situation tout aussi grave que celle du pays du Nord, qui sont endettés, isolés et qui peuvent être amenés à se suicider. Donc, pour moi, les circuits courts, de la même façon que le commerce équitable, ils permettent de les aider économiquement en leur offrant une nouvelle alternative.
Oui, bon, j'admets ce que tu viens de dire, mais je pense qu'un autre élément important, c'est qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte le point de vue des agriculteurs. Donc, par exemple, j'avais eu l'occasion de discuter de cette question avec des agriculteurs qui vendent leurs produits en vente directe. Et selon eux, leurs produits sont certes locaux, mais pas équitables, parce qu'ils voient le commerce équitable comme un commerce qui se limite aux relations nord-sud. Et à l'inverse des producteurs du sud, ils ne se considèrent pas forcément en situation de précarité. Et ils ne recherchent pas une aide financière auprès des consommateurs, mais plutôt une reconnaissance de leur travail par une juste rémunération et par l'échange avec leurs consommateurs. Et du côté des consommateurs, l'achat de produits équitables, c'est plus un acte de charité, un acte caritatif pour aider les producteurs du Sud, on pourrait dire, alors que l'achat de produits locaux, c'est plus un acte de solidarité pour aider les agriculteurs de son territoire.
Oui, c'est vrai que les consommateurs, on voit, ils aiment acheter local aussi pour participer à la richesse du territoire. Les circuits courts permettent de redynamiser les territoires et de construire un lien entre les citoyens, les agriculteurs et tous les acteurs d'un même territoire. Par exemple, ça peut favoriser la création de nouveaux commerces, comme des magasins de producteurs, favoriser l'emploi ou l'installation de jeunes agriculteurs. Et au final, l'argent qui est investi dans ces initiatives locales reste dans le territoire et il est réinvesti dans la communauté et bénéficie à tous les citoyens.
Oui, mais ça, c'est aussi valable pour les produits équitables, puisqu'il y a une partie du prix de vente qui va être réinvestie pour des projets territoriaux. Je me souviens d'avoir vu, je ne sais plus quand exactement, le département de la Meurthe-et-Moselle, qui a été élu le premier département en France à avoir le label « Territoire de commerce équitable ». Et ce label « Territoire de commerce équitable », il va promouvoir un développement des initiatives équitables et locales à l'échelle d'un territoire. Donc, quand je parle de territoire, ça peut être une collectivité, un département ou une région. Donc là encore, il va y avoir différents critères à respecter, comme l'achat de produits équitables et responsables dans les collectivités, dans les restaurants ou dans les entreprises du territoire. Donc, c'est vraiment un label pour développer l'achat et la consommation responsable sur un territoire.
Donc, finalement, il semble difficile d'associer commerce équitable et circuit court. On l'a vu, ils sont similaires par certains aspects, comme le prix rémunérateur, le développement territorial, mais ils sont différents par d'autres, comme le lien social qui semble être différent, l'organisation des filières, la motivation d'achat, les contraintes pour les agriculteurs. Mais ce que nous pouvons finalement dire sur les circuits courts, c'est qu'ils se rapprochent de la notion d'économie morale, qui désigne une économie où les échanges commerciaux sont justes et honnêtes, et se font donc ni au détriment des consommateurs, ni au détriment des agriculteurs. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et merci à tous nos auditeurs pour avoir participé à notre sondage. Nous tenons à remercier la radio Campus FM de Toulouse pour nous avoir offert l'opportunité de nous exprimer sur le thème du commerce équitable. Un grand merci aux partenaires de ce projet, donc l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse et la région Occitanie. Merci à tous nos auditeurs pour leur écoute et leur fidélité. Mathilde, Jordi et moi espérons vous avoir aidé à y voir plus clair. Si vous avez des remarques ou des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à nous écrire dans les différents espaces commentaires. La musique diffusée vous a plu ? C'était My Game de l'album The Deluxe Show Family du groupe Deluxe. Vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur le site de Campus FM de Toulouse. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Agro J'écoute. Et cette fois, vous entendrez parler des vins nature et de tous leurs secrets. Bonne journée à tous et n'oubliez pas, consommer local, durable et équitable, aidez nos agriculteurs.
C'était Agro J'écoute, une émission préparée par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale de Toulouse.